Bonne parole de notre Dieu dans le psaume 116. Peut-être vous souvenez-vous qu'il y a 2 semaines de cela, nous avons eu notre texte dans le psaume 116, mais au début du psaume. Hein. Et puis on avait travaillé un petit peu sur la première partie de ce psaume jusqu'à la fin du verset 9. Ce jour-là, notre texte était au verset 1er et au verset 2. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Voilà. Puis aujourd'hui, nous nous dirigeons plutôt vers la fin du psaume. Alors on va lire à partir du verset 10, hein, puisque c'est la deuxième partie. Et nous allons trouver là une expression répétée mot pour mot, qui nous montre à la fois la conviction et la détermination du psalmiste, de l'auteur du psaume, et qui nous montre aussi quel est notre texte sur lequel insister et auquel nous attacher particulièrement. Donc, verset 10, je dis, « J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout en m'est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Loué l'Éternel. Voilà, je pense que vous avez vu que la deuxième partie du verset 13 et le verset 14, c'est exactement la même chose que la deuxième partie du verset 17 et le verset 18. Hein. Je relis donc, « J'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Vous trouvez ça dans les deux passages. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Déjà, nous avons, et c'est ce que nous pouvons voir dans un premier grand point, nous avons là un modèle exemplaire de prière pour nous, agréable à Dieu, et qui est la manifestation d'une foi entière. Voilà, si nous prions de cette manière-là, pas seulement les mots, bien sûr, mais avec l'esprit de la chose, eh bien Dieu a effectivement le désir de bénir pleinement. Alors, de quoi est-il question là? Remarquez bien, il est question tout d'abord d'invoquer le nom de l'Éternel. Il y a un dicton populaire qui dit « Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». Oui, eh bien, c'est vrai. Eh bien, vous savez, le bon sens populaire devrait conduire beaucoup plus de gens. Hein, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre temps à chercher toutes sortes d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, toutes sortes d'esprits, de divinités inférieures, de médiateurs d'une sorte ou d'une autre. Bref, ne perdons pas de temps avec tout ce fatras qu'essaye de nous fourguer des religions et des courants plus ou moins ésotériques dans ce monde qui font que les gens se retrouvent après dans la confusion et dans l'erreur. Nous pouvons et nous devons invoquer Dieu directement. Voilà ce que dit notre texte. D'autant plus que l'accès direct à son oreille nous a été ouvert à cause de Jésus-Christ, cet autre lui-même, qui a accompli pour nous, pour nous sauver du péché, une œuvre, de manière à ce que nos prières soient rendues directement acceptables devant lui. Et c'est pour ça que vous avez des passages, que, par exemple, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Approchez-vous directement de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le pécheur abandonne sa voix, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel et donc qu'il ne se lasse pas de pardonner. Et puis encore le témoignage du psalmiste, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs, alléluia. Ou encore, quand on tourne vers lui les regards, on est rayon de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et encore, invoque-moi au jour de la détresse, dit le Seigneur, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et que d'autres passages de l'Écriture aussi encourageants pour nous pousser à intercéder, donc à invoquer Dieu directement. Hein, directement. Alors il faut qu'on soit de ceux qui implorent, de ceux qui invoquent l'Éternel, qui le font avec sérieux, qui le font avec pleine conscience, qui le font avec vérité, avec sincérité de cœur, hein, toutes choses que nous pouvons faire, hein, qui le font de tout leur cœur, de toute leur âme, qui le font en s'y consacrant tout entier quand ils le font, avec une pleine confiance en sa bonté, en sa miséricorde, qui le font aussi avec humilité, avec soumission de cœur, qui le font avec le désir de connaître sa volonté et d'y obéir. Et certainement, ceux qui invoquent l'Éternel dans cette disposition-là ne seront pas déçus. Amen. Hein ? C'est ce qu'on a pu voir, donc, là, c'est ce qui était marqué dans la deuxième partie du verset 13 et la deuxième partie du verset 17, « J'invoquerai le nom de l'Éternel ». Et puis, si je continue à un petit peu analyser, si j'ose dire, ce modèle de prière, eh bien, je m'aperçois qu'invoquer Dieu de la bonne façon nous amènera à faire des vœux devant lui. C'est ce que vous voyez au début du verset 14 et au début du verset 18. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel ». Quelle sorte de vœux ? Quelle sorte de vœux est-ce qu'on peut faire devant Dieu ? Vous savez, quand on commence vraiment à s'approcher de Dieu, hein, quand on commence vraiment à réaliser un peu qui est Dieu, un peu je dis, hein, un peu, déjà avec un peu on est dépassé, hein, je vais vous le dire, hein. Donc un peu qui est sa grandeur, quelle est sa sainteté, quelle est sa puissance, sa gloire, sa sagesse, son amour. Alors déjà, on peut se sentir tout petit. Hein. Déjà tout petit, et puis on peut se sentir aussi souillé, coupable, pécheur. Hein, d'avoir, on peut sentir qu'on a vraiment besoin de son pardon. On peut ressentir combien on est impuissant et incapable de bien faire ce qu'on devrait faire. Hein. Et puis on peut réaliser aussi notre besoin de changer, en particulier de changer de cœur. Hein. Et puis aussi réaliser notre besoin d'élargir notre vision, notre perspective, notre façon de voir les choses et surtout notre façon de voir les gens. Hein. Et puis réaliser combien par nos propres forces on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et ça, bien sûr, ça nous concerne chacun personnellement, sans parler des autres besoins que nous pouvons avoir, que d'autres nous peuvent avoir, et pour lesquels on doit invoquer toutes sortes de raisons d'invoquer l'Éternel pour son secours. Et ça nous amène, je pense, à faire des vœux. À faire des vœux, déjà, ben voilà, on fait monter nos supplications vers lui, accompagnées de désirs de changer, par exemple, hein, accompagnées de promesses et d'engagements. Le désir de changer est légitime, hein, donc, et on veut le voir agir dans notre vie. Et il nous est bon de faire des vœux quand on s'approche de Dieu, quand on a conscience de la présence de Dieu, donc, et qu'on a cette bonne disposition de cœur. Alors après malgré tout, c'est notre point suivant, invoquer Dieu nous amène aussi à accomplir nos vœux, parce que ce n'est pas tout de faire des vœux, il faut les accomplir. Hein. Et vous avez une triste expression en français qui existe, vous avez entendu déjà parler de ça, des vœux pieux. Des vœux pieux, alors ça c'est une triste expression. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire qu'il est question de vœux qui ne se réaliseront pas. En français, c'est comme ça que ça veut dire, hein, l'expression des vœux pieux. C'est-à-dire qu'il ne se réalisera pas, c'est-à-dire de ceux qui ne s'accomplira pas et ne seront pas mis en pratique. Alors qu'ils avaient été faits non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu, puisqu'il s'agit de vœux qui sont pieux, hein, soi-disant. Voilà. Et cette expression est apparemment née de l'hypocrisie religieuse de ceux qui se prétendent des hommes de piété, de ceux qui font des promesses, qui émettent des désirs, mais qui ne les réalisent pas. Et alors ils déçoivent ceux qui comptaient sur eux, ceux qui espéraient, et ceux-ci donc repartent en dénigrant la religion, et puis vous disent, mais ça c'est des vœux pieux, ça veut dire vraiment c'est des trucs qui n'arrivent pas, qui n'arriveront pas, et puis ça a dû arriver si souvent que malheureusement l'expression a donné naissance à ce proverbe général. Voilà. Alors que c'est une honte, je crois. Je pense que c'est une honte cela. Au contraire, des vœux pieux, ça devrait être quelque chose de plus solide et de plus fiable que des vœux humains simplement. Ça devrait être comme ça la chose. Ils devraient être exemplaires par leur vérité et par leur réalisation fidèle. Vous savez, vous avez un passage dans le livre de l'Ecclésiaste que nous allons lire, chapitre 4, verset 17, ça commence là. Et là, nous lisons, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Voilà. Voilà, voilà ce que l'Écriture nous dit. Voilà ce dont il est question. Donc, ça veut dire que le fait d'invoquer Dieu implique de notre part une cohérence et de la responsabilité. Il s'agit d'une affaire sérieuse, de manière à ce que nous puissions rendre à notre Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Amen. Mais j'avance un petit peu et je m'aperçois, pour en revenir à mon psaume 116, donc, je m'aperçois au verset 13, au début du verset 13, que ce fait d'invoquer Dieu s'accompagne du fait d'élever la coupe des délivrances. Il est marqué là, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il est même question d'élever la coupe des délivrances avant d'invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez, hein, c'est clair. Donc, et puis vous pouvez voir que ce sont des délivrances, hein, il n'y en a pas qu'une. C'est une série, un ensemble de délivrances. Il y en a plusieurs et probablement même pour l'un-même beaucoup. Ça veut dire qu'on va les recenser l'une après l'autre, on va les examiner, on va quelque part les fêter l'une après l'autre. Vous savez, nous sommes dans une région où les gens aiment bien lever la coupe, hein, avec du champagne dedans, hein, en tant que préférence, hein. Donc voilà, ils aiment bien lever la coupe, et voilà, ils vont fêter voilà, le début des vendanges, la fin des vendanges, ils vont fêter pendant les vendanges, ils vont fêter, voilà, hein, puis après ils vont fêter l'anniversaire d'un tel, et puis on fête ceci et cela, et puis tous les prétextes sont bons pour lever la coupe et puis en boire le plus possible, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en boire, hein, c'est pas mal, bien souvent comme ça. Donc, mais pour ce qui nous concerne, quand nous commençons à rappeler les belles et les grandes délivrances que le Seigneur nous a accordées, et quand nous commençons à compter les bienfaits de Dieu, lorsque nous commençons à lui rendre grâce avec reconnaissance, alors nous élevons la coupe des délivrances et nous sommes dans la bonne position, je dirais, pour invoquer Dieu de la meilleure manière. C'est comme ça que nous le ferons dans la disposition la plus favorable. Amen. Maintenant, si je prends mon deuxième texte, donc au verset 17, je m'aperçois, c'est un petit peu différent. Là, au début du verset, il est marqué « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Ça ressemble au fait de lever la coupe des délivrances. Mais je dirais que ça va un petit peu plus loin, parce que le sacrifice d'action de grâce, bien sûr, ça comprend la délivrance, mais ça comprend aussi beaucoup d'autres choses encore, hein. Parce que ça comprend quoi, par exemple? Eh bien, ça comprend, par exemple, on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'est notre Dieu pour nous. C'est-à-dire, il est notre créateur, il est notre providence, on lui rend grâce, on fait un sacrifice d'action de grâce. Il est notre parfait protecteur, il est notre puissant sauveur, il est notre bon berger, il est notre guide infaillible, il est notre puissant consolateur, il est notre fidèle pourvoyeur jour après jour, et j'en passe, et j'en oublie. Et nous voyons bien que le fait de commencer par faire ces sacrifices d'action de grâce au Seigneur nous met là encore dans la bonne position, la meilleure position, pour invoquer notre Dieu de la meilleure façon. Amen. Ça, c'était notre premier point. Maintenant, passons au deuxième. Le deuxième point, le deuxième grand point, c'est d'examiner un petit peu, je dirais, le contexte, les accompagnements de cette prière exemplaire dont nous avons parlé ainsi en peu de mots, pour que nous puissions mieux comprendre comment la pratiquer, que nous puissions mieux comprendre dans quelle situation la pratiquer. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons déjà quelque chose qui peut paraître surprenant, c'est que David, on pense que c'est David, hein, qui a écrit ce psaume, fait un constat de situation et fait un constat du sentiment intérieur que cela lui inspire, et ce n'est pas très joyeux, hein. Regardez au verset 10, « J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. » Je suis bien malheureux. Il dit ça, qu'il est bien malheureux, ça veut dire qu'il avait des vrais problèmes. Vous savez, David, ce n'était pas une mauviette. Hein. David, vous ne l'auriez pas retourné avec une bricole de rien. Il suffit de lire le récit de sa vie, et puis vous pouvez voir qu'il en a vu toutes les couleurs, et qu'il a surmonté beaucoup de choses. Alors quand il dit qu'il est bien malheureux, ça veut dire que vraiment la situation est vraiment difficile, qu'elle est compliquée, et donc malgré tout, remarquez que même si la situation est vraiment compliquée et difficile, ça ne l'empêche pas d'invoquer le nom de l'Éternel, et ça doit aussi nous encourager à le faire nous-mêmes. Si nous trouvons une situation où nous sommes bien malheureux pour diverses raisons, quand la situation peut paraître sans espoir, eh bien, David, lui, était bien malheureux. Et puis, remarquez quand même une chose, notre deuxième remarque là, c'est qu'en même temps qu'il dit qu'il est bien malheureux, il garde confiance. Il le dit. Il dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Il le proclame. Et ça aussi, c'est important. Vous savez, frères et sœurs, ce qui va nous fortifier, c'est la confession positive de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va nous soutenir. Donc, il peut dire, j'avais confiance. Et ça donne un tout autre sens à ce qu'il dit après, je suis bien malheureux. Ah oui, pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même s'il est bien malheureux, il a confiance, ça veut dire qu'il sait qu'il y a un avenir. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a une espérance, et ça veut dire qu'il sait que Dieu va donner une solution. Ça veut dire que par la foi, même s'il est malheureux, il discerne déjà l'issue, il discerne déjà la victoire et la délivrance. Vous savez, il y avait des gens, j'ai entendu ça déjà, de la part de chrétiens, qui disent, ah oui, mais vous savez, il faut dire tout. Il faut dire tout ce qui ne va pas. Même quand ça ne va pas, il faut le dire absolument. Alors, ils diront même c'est de la dissimulation et de l'hypocrisie que de ne pas le faire. Il faut dire ce qui ne va pas. Vous savez, bon, je dis en fait, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas vraiment là. Si vous dites ce qui ne va pas et puis que vous en restez là, alors vous confessez la défaite. Voilà. Vous confessez la défaite, vous dites des paroles négatives, vous dites des paroles décourageantes et vous ne faites pas avancer la situation. Au contraire, vous ne faites qu'aggraver la situation. Si vous n'avez que ça à dire, effectivement, il vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire, vaut mieux ne pas en parler. Mais si vous pouvez dire que vous avez confiance que Dieu va agir, et si vous pouvez vous rappeler d'autres situations que vous, par lesquelles vous êtes passé peut-être, ou par lesquelles peut-être d'autres passés, et donner le témoignage de ça en même temps, si vous prononcez des paroles encourageantes en même temps, alors oui, c'est vrai, vous pouvez dire que ça ne va pas pour le moment, et je dirais qu'à ce moment-là, ce sera comme un marqueur de la situation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer ? Marqueur qu'on saura rappeler plus tard. Quand Dieu nous en aura sorti, alors on pourra dire à la personne qui avait dit, tu te souviens ? J'avais dit, je suis bien malheureux, tu te souviens ? Mais j'avais dit aussi que je faisais confiance au Seigneur. Souviens-toi. Puis regarde, maintenant le Seigneur m'en a sorti. Tu vois comme le Seigneur est bon, comme il répond. Vous voyez ? Là, ça c'est la bonne façon de procéder. Alléluia. C'est ça. Il l'a fait, la promesse est accomplie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je dirais que c'est le bon moyen de faire le constat d'une situation difficile. Voilà. Et si je poursuis aussi, je vois qu'il a une autre difficulté dont il est parlé là, dans cette situation où il invoque l'Éternel. Cette difficulté, c'est toutes les expériences de tromperie qu'il a faites de la part des hommes. Vous avez vu dans le verset 11, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Tout homme est trompeur. Il a tellement fait cette expérience que ça l'a plongé dans l'angoisse. Vous voyez ? C'est vrai, quand vous pensez à David encore, trompé par les uns, trompé par les autres, trompé par certains de ceux qu'il avait nourris à sa table, trompé par celui qu'il avait appelé son confident et son ami, trahi par des gens qu'il avait libérés de leurs ennemis, trompé par des membres de sa propre famille, trompé par certains auxquels il avait fait beaucoup de bien, trompé par des membres du peuple de Dieu. Oui, c'est vrai. Et nous comprenons qu'il est pu dire avec angoisse, tout homme est trompeur. Et c'est vrai que les uns ou les autres, je pense que nous avons pu faire, de ce point de vue-là aussi, des expériences difficiles. Et c'est pour ça que l'Écriture sainte nous dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc c'est vrai. Mais certainement n'avons-nous pas expérimenté cela de manière aussi fréquente que David. David qui, heureusement, et c'est notre petite remarque suivante. Heureusement, il n'en reste pas là. Parce que sinon, il deviendrait neurasthénique. Mais il ajoute dans la même foulée, qu'est-ce qu'il ajoute ? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Tout en mes trompeurs, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Ce qui le soutient dans ses déboires, dans ses déceptions avec les hommes, c'est de se confier d'autant plus en Dieu. C'est de s'attendre d'autant plus à lui. C'est de s'attacher d'autant plus à lui avec un esprit de foi. C'est de crier à lui pour toute chose, pour tout besoin, hein, et de voir ainsi ses exaucements, et d'expérimenter ainsi ses bienfaits, et de lui proclamer ainsi sa reconnaissance. Et c'est ça qui va l'aider à passer par-dessus les trahisons et les tromperies humaines. C'est ça qui va l'aider aussi à ne pas en vouloir, à ne pas conserver de la haine dans son cœur. Vous savez, quand on conserve de la haine dans son cœur, vous savez qui c'est que ça détruit en premier ? Nous-mêmes. Hein ? Nous-mêmes, voilà. Ça va l'aider à ne pas garder rancune, ça va l'aider à ne pas pardonner. Pourquoi ? Parce que l'Éternel l'a mis au large. Parce que l'Éternel l'a secouru, et c'est quand même ça le principal, non ? C'est quand même que Dieu nous mette au large. C'est quand même ça l'important. Après, la question du règlement de compte, c'est l'affaire de Dieu, hein, s'il y a besoin. Le principal, c'est que Dieu nous mette au large. Hein, c'est ça le plus important. Et nous pouvons donc comprendre qu'il invoque le nom de l'Éternel avec d'autant plus de force. Et je dirais que son état d'esprit, eh bien, plaira d'autant plus au Seigneur pour l'exaucer de la meilleure façon et répondre à sa prière avec bonté. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre, et là je fais une petite digression, parce que l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, fait une référence à ce passage-là. Il dit là en effet, dans son épître, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », donc c'est un renvoi au psaume 116, au verset 10, nous aussi nous voyons et c'est pour cela que nous parlons. Alors la citation que fait l'apôtre Paul, c'est une citation, je dirais, très libre. Hein, mais ce qu'il en retire, lui, c'est le sens profond, c'est la leçon. Hein. La leçon, c'est quoi ? La leçon, c'est j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous croyons. Et nous croyons, alors même que nous pouvons nous trouver dans l'angoisse parce que nous avons réalisé que tout homme est trompeur, nous n'allons pas en rester là, hein. Nous n'allons pas rester bloqués là-dessus. Mais nous nous attachons au Seigneur et nous avons conscience de ses bienfaits et nous en faisons le compte, nous en faisons le recensement, nous les gardons par nous-mêmes, nous en parlons, nous en témoignons, nous les proclamons et nous bénissons et glorifions le Seigneur en le louant, en l'adorant à haute et intelligible voix. Amen, amen. Et nous invoquons le nom du Seigneur aussi en parole, hein, d'une manière bien claire et bien audible. Et c'est comme ça que nous obtenons donc là aussi et manifestons la victoire, en particulier sur les déceptions que les hommes peuvent nous faire connaître. Amen. Et d'ailleurs, et c'est notre petit point suivant encore dans ce chapitre-là, cette proclamation, il la continue pour proclamer sa foi jusqu'au bout, et je dis même jusqu'à la mort, parce que lorsque vous regardez maintenant dans le verset 15, elle a du prix, juste derrière, hein, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Donc, il parle déjà de son amour pour le Seigneur, et il dit son amour pour le Seigneur, ben, il veut le garder jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. J'arrête là, parce que j'entends une casserole là. Donc, mais en tout cas, il est convaincu de l'amour de Dieu en sa faveur. Et j'irais même de sa propre valeur aux yeux de Dieu. Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qu'il aime. Ça veut dire, elle a du prix jusqu'à la mort et jusque dans l'au-delà. Alléluia. C'est une assurance pour l'au-delà. Et ça, ça fait aussi partie de cette foi ferme et ça lui donne aussi d'autant plus d'assurance pour avec le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Amen. Et si je poursuis, je vois maintenant combien il prend de l'assurance pour s'adresser à Dieu quelque part de plus en plus hardiment, avec de plus en plus de détermination, parce que dans la suite, le verset 16, regardez. « Écoute-moi, ô Éternel !» Prend autorité avec Dieu presque, hein. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Alors voilà. Donc il demande à Dieu de l'écouter avec force, avec conviction, et il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur le fait qu'il est son serviteur. Il a dit, écoute-moi, car je suis ton serviteur. Vous savez, un bon serviteur a le droit d'être écouté. La reine d'Angleterre, bon, avait un très bon serviteur. auquel elle faisait une entière confiance pour la gestion de sa maison. Bon, il y en a certainement plusieurs. Et ce serviteur-là, quand j'ai vu là, un petit peu la vidéo, je pense que certains l'ont peut-être vu, hein, quand le cercueil était prêt à descendre, là, dans la chapelle Saint-Georges, il est venu, il a pris sa baguette, crac, il l'a cassée en deux et il l'a posée là. Ça voulait dire, j'ai accompli ma mission, j'ai accompli mon service jusqu'au bout. Et cet homme-là, c'est un homme qui avait toute la confiance de la reine. Hein. Et cet homme-là, vous savez, s'il avait demandé quelque chose à la reine, vous croyez qu'elle l'aurait écouté ou pas? Bien sûr qu'elle l'aurait écouté, parce qu'elle savait que c'était un bon serviteur. Et un bon serviteur, il faut l'écouter. Parce qu'un bon serviteur, ben, il a de bons désirs, et puis bien sûr, non seulement de bons désirs, mais il a aussi de bonnes façons de faire. Donc, son avis mérite d'être écouté. Et regardez ce qui est marqué là. Je suis ton serviteur, attention, mais pas n'importe quel serviteur. Fils de ta servante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la deuxième génération. Il a été formé pour être serviteur à son tour par sa mère qui était déjà la servante. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de précieux. Et ça nous renvoie à quoi ça? Mais ça nous renvoie à David, il dit « Je suis fils de ta servante ». Fils de c'est qui la servante? La servante, c'est Israël. Vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, vous voyez à divers endroits que Israël, c'est comparé à l'épouse de Dieu, c'est comparé à sa servante aussi, hein, on le voit. Et donc lui, il dit, voilà, je suis fils d'Israël, je suis fils de ta servante. Et pour nous, l'image va plus loin encore, puisque pour nous, eh bien, pour nous, c'est l'Église. Nous sommes fils et filles de l'Église. Hein, si nous sommes réellement convertis, c'est le cas. Nous sommes fils et filles de l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui est aussi sa servante. Et si nous sommes ainsi, si nous sommes attachés à l'Église, si nous sommes de ceux qui peuvent invoquer, dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, je te sers, et je te sers dans le cadre de l'Église, et je le fais de tout mon cœur, à l'Église, corps de Christ. Ben ça, c'est un argument puissant. C'est un argument qui est fort devant Dieu, ça aussi. Hein. Et non seulement cela, mais il continue en disant, Seigneur, regarde, tu as, qu'est-ce que tu as fait ? Détacher mes liens. Ça aussi, c'est un argument puissant. Un argument puissant. Seigneur, voilà, tu vois, je suis ton serviteur, fils de ta servante, mais tu m'as libéré. Tu m'as libéré de tous mes liens, de toutes mes addictions et de tous les liens de l'ennemi. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Et l'apôtre Paul ajoute, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves de leurs opinions. Ne devenez pas esclaves des modes et de tous ces trucs-là. Hein, donc, soyons de ceux qui reconnaissent, qui proclament cette grande œuvre que le Seigneur a faite. Si le Seigneur nous a libérés, ce n'est pas pour qu'on gâche notre vie à des bêtises. Hein. Si le Seigneur a payé ce grand prix de la libération, c'est pour qu'on le serve. Alléluia. Et donc, Seigneur, eh bien voilà, je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens pour que j'entre dans la vocation que tu as prévue pour moi, pour que j'avance dans la carrière que tu veux, hein, pour que je puisse aller de l'avant et puis que je puisse marcher dans cette carrière qui nous est ouverte. Et voilà donc, voilà comment voulez-vous que le Seigneur ne réponde pas à ceux qui prient de telle façon. Alléluia. C'est vrai, c'est son désir de le faire. Alors, eh bien, frères et sœurs, soyons de ceux qui invoquent Dieu avec confiance, hein, même quand nous sommes bien malheureux, hein, ou même quand les hommes nous trompent. Hein, invoquons le Seigneur avec reconnaissance pour ses bienfaits en élevant la coupe des délivrances et aussi en faisant nos vœux, en les accomplissant, avec l'assurance de son amour pour nous jusqu'à la mort et jusque dans l'au-delà. Alléluia. Et puis invoquons l'Éternel en étant son serviteur ou sa servante, dévouée, fidèle, en nous rappelant toujours qu'il a détaché nos liens et la façon merveilleuse dont il l'a faite, et que nous puissions ainsi lui offrir ce sacrifice d'action de grâce avec un esprit de louange et d'adoration. Amen, amen. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Faites-nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Faites-nous une symphonie d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. J'élève mes mains en ton nom.